Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour est la 8e et dernière dans une série sur la délivrance et se porte sur un piège fréquent. Dans notre dernière leçon, nous avons souligné le fait qu'un chrétien est protégé des puissances des ténèbres, mais que s'il devient infidèle envers le Seigneur, il sera vulnérable. Satan profitera d'une vie de péché pour reprendre le contrôle de la personne. Celui qui a été délivré pourrait ainsi se trouver de nouveau sous le joug du diable. Dans cette dernière étude sur la délivrance, nous voulons insister sur un piège dans lequel trop de chrétiens tombent et qui est particulièrement apte à les ramener dans le royaume de Satan. Il a été dit que pour le chrétien, Satan est comme un chien dangereux attaché par une chaîne. Il n'y a aucune raison de craindre qu'il pourra rompre la chaîne, on est en sécurité. Mais ce n'est pas pour cela que l'on s'en approchera pour regarder dans sa gueule. Le piège que nous allons considérer aujourd'hui concerne une manière de trop s'approcher et de s'exposer au danger. Je me rappelle une période de 2 ou 3 semaines pendant lesquelles j'ai parlé avec au moins 4 frères en Christ en différents endroits qui luttaient avec la même sorte de problème. Soit le frère lui-même, soit un parent proche était malade et la médecine moderne n'avait pas donné de solution. Dans chaque cas, on parlait de la possibilité de trouver la santé auprès d'un guérisseur. Un premier s'est rendu auprès d'un soi-disant prophète qui promettait le rétablissement de sa femme malade si elle confessait qu'elle était sorcière et que la famille devenait disciple du prophète. La sœur d'un autre chrétien voulait à tout prix que ce dernier, malade depuis 2 ans, consulte un guérisseur qui aurait analysé ses rêves afin de déterminer le traitement à suivre. Un troisième frère en Christ fut informé que son parent malade avait été mordu en sorcellerie, mais que le guérisseur était capable d'enlever les dents invisibles pour que le parent vive. Les amis chrétiens d'un quatrième fidèle l'encourageaient à consulter un charlatan pour savoir si la folie qui avait atteint sa sœur était due à un mauvais sort. Tous les 4 frères dont je viens de parler avaient été des chrétiens fidèles de longue date. 2 ont bien choisi, un autre n'a pas bien fait. Le 4e n'avait pas pris sa décision quand je l'ai quitté. Mais il est évident que dans beaucoup de milieux, ce genre de dilemme est assez fréquent. On est parfois déchiré. On veut faire tout ce qu'on peut pour être guéri. Quand il s'agit d'une autre personne qu'on voit souffrir, qui est peut-être en danger de la mort, le désir de faire quelque chose qui puisse aider est parfois encore plus fort que lorsqu'il s'agit de sa propre souffrance ou sa propre vie. Nous savons que la sorcellerie existe. Nous connaissons des gens qui ont été guéris par des guérisseurs. Notre entourage nous assure que notre problème sera résolu. Mais en même temps, nous craignons d'être infidèles à Dieu. 4 conseils pourraient aider ceux qui se trouvent dans de telles situations. La première chose est de bien vous renseigner avant de vous engager. Quand les gens vous recommandent les services d'un guérisseur, ils insistent sur les résultats et non sur les méthodes. Vous devez poser des questions. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21 nous dit « Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Abstenez-vous de toute espèce de mal. On veut tellement obtenir la guérison qu'on peut préférer ne pas savoir que la solution proposée est défendue par Dieu. Mais il y a des situations dans la vie où vous risquez de subir des conséquences bien graves si vous ne vous renseignez pas. S'il y a raison de croire, par exemple, que des articles qu'on vous propose en vente sont, en fait, des objets volés, vous avez intérêt de vous renseigner soigneusement. Autrement, vous risquez de faire un séjour en prison pour le recel. S'il y a lieu de douter qu'un acte soit bien devant Dieu, ne faites pas taire votre conscience. Romains 14, verset 23 dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Le chrétien est appelé à employer du bon jugement. Paul dit « Frères, ne soyez pas des enfants quant à votre façon de raisonner. Soyez des enfants en ce qui concerne le mal. » Mais soyez des adultes quant à votre façon de raisonner. 1 Corinthiens 14, verset 20. Même quand on est né en Afrique ou dans une autre culture animiste, on peut ignorer ce qui est derrière certaines coutumes. Sachez donc que plusieurs choses peuvent indiquer qu'un guérisseur s'appuie sur des puissances mystiques et non simplement sur sa connaissance des vertus de telle ou telle feuille ou écorce d'arbre. En fait, la médecine traditionnelle peut nous apprendre beaucoup en ce qui concerne les vertus médicaux des différentes plantes que Dieu a créées et qu'il a mises à notre disposition. Mais quand une puissance spirituelle qui n'est pas de Dieu joue un rôle dans le traitement, le chrétien doit s'en tenir loin. Quels sont donc des indices que nous sommes face à un piège spirituel? Si l'on vous prescrit des paroles à réciter en rapport avec le traitement, si l'on sacrifie un animal ou que l'on fait une libation, si le diagnostic se fait en tenant compte des songes, si l'explication de la maladie se rapporte à un mauvais sort, des ancêtres fâchés ou l'activité des sorciers, s'il y a des totems arbitraires à observer pendant le traitement, si l'on vous dit de porter une ficelle ou autre objet sur le corps, ou s'il y a des actes cérémoniels à accomplir, tels que le fait de prendre le canari dans lequel le médicament était gardé et de le casser sur la route au milieu de la nuit à la fin du traitement, si un quelconque de ces facteurs figure dans les soins que l'on vous propose, abandonnez le projet de vous laisser soigner par cette personne. Un deuxième conseil est de garder toujours votre confiance en Jésus. Comme nous l'avons vu au cours de nos études, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Éphésiens 1, verset 21. Il est en nous par son esprit. Et Jean nous rappelle que nous avons vaincu les esprits qui ne sont pas de Dieu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. La parole nous dit clairement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, verset 23. Or, nous sommes Israël spirituel aujourd'hui. Si donc vous vous savez chrétien, fidèle, et que vous êtes malade, vous ne devez pas vous laisser persuader que vous êtes victime de la sorcellerie ou d'un autre pouvoir occulte. Ce n'est pas pour dire que votre maladie ne peut pas avoir de cause spirituelle. Elle peut être une sorte d'épreuve de votre foi, un test de votre fidélité envers le Seigneur. Dans ce cas, le recours aux praticiens animistes serait l'échec dans cette épreuve. La maladie peut être un châtiment de Dieu. Dans ce cas, vous devez vous examiner, vous repentir et confesser votre faute. C'est d'une telle situation que Jacques nous parle dans son épître. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, versets 14 à 16. Un troisième conseil pour le chrétien qui est tenté de se rendre auprès d'un marabout, un chaman ou un guérisseur qui a recours à l'aide des esprits, et de se rappeler l'attitude de Dieu à l'égard de ses enfants qui s'associent à d'autres puissances spirituelles. C'est un Dieu jaloux. Écoutez par exemple ce que l'apôtre Paul a écrit concernant ceux qui mangent sciemment de ce qui a été sacrifié à des idoles. Est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que la viande qui lui est sacrifiée ont une valeur quelconque? Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux esprits mauvais et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des esprits mauvais. Ou bien voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? Pensez-vous que nous soyons plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, versets 19 à 22. L'attitude de Dieu à l'égard des pratiques animistes n'a pas changé depuis le temps de Moïse. Considérez les recommandations qu'il adressa aux Israélites avant leur entrée au pays de Canaan. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Enfin, nous devons craindre l'infidélité plus que la mort. Trop souvent, des gens s'excusent quand ils ont péché, disant « Nous avons été obligés de faire ce que nous avons fait. Il n'y avait pas d'autre choix. » Mais la Bible nous assure qu'on n'est jamais obligé de désobéir à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit catégoriquement « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été commune aux hommes. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce que nous n'aimons pas admettre, c'est qu'il peut y avoir des cas où le moyen d'en sortir, c'est d'accepter de mourir. Dans les temps de persécution, le chrétien doit mourir plutôt que de renier sa foi en Christ. L'Apocalypse parle de ceux qui ont été victorieux sur le diable en acceptant le martyre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Apocalypse 12, verset 11. Si nous avons été délivrés de celui qui, par crainte de la mort, nous avait retenu toute notre vie dans la servitude, pourquoi accepterions-nous de perdre la vie éternelle avec Dieu afin de prolonger, peut-être, notre vie sur la terre en nous confiant à un guérisseur dont la puissance ne vient pas de notre Seigneur? Il faut souvent prendre des dispositions avant que le moment d'épreuve ne nous surprenne. Ce n'est pas quand je suis malade et qu'on me chante les pouvoirs de tel ou tel charlatan que je dois décider ce qu'il convient à un chrétien de faire. Réfléchissez d'avance. Alors, quand la tentation se présente, renseignez-vous avant d'agir. Y a-t-il une puissance spirituelle dans le remède qu'on vous propose? Gardez votre confiance en Jésus. Un chrétien fidèle ne sera pas victime de la sorcellerie. Rappelez-vous la jalousie de Dieu et sa colère envers ceux qui se confient à d'autres esprits. Et craignez l'infidélité plus que la mort. Jésus nous délivre des puissances des ténèbres. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Sans lui, vous serez sans défense, esclave de nouveau. Rappelez-vous les paroles de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération.
Cette émission vous est offerte par des Églises du Christ. Pour prendre contact avec l'Église du Christ dans la région de Pau et de Thiébélé, vous pouvez appeler M. Sam Michel au numéro de téléphone 76 68 77 79. Il se fera un plaisir de partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Encore une fois, le numéro à appeler, c'est le 76 68 77 79.